En 1972, un anthropologue du nom de Colin Turnbull a écrit un livre sur une tribu située au nord-est de l'Ouganda appelée Ik. Leur caractéristique est que chacun d'entre eux est uniquement centré sur lui-même et sa survie sans la moindre considération pour les autres. Leur maxime est que chacun doit faire ce qu'il veut et n'agir différemment que s'il est forcé. Les Ik n'ont aucun sentiment familial ou de pitié. Pour eux, l'idée d'aider quelqu'un dans le besoin est simplement absurde. Ils considèrent les vieux comme nuisibles et les enfants inutiles, alors quand l'un est blessé ou malade, nul ne songe à lui venir en aide car c'est une perte de temps et d'énergie. Dès qu'un gosse atteint l'âge de 3 ans, souvent ses parents l'abandonnent. Alors, pour survivre, les enfants se rassemblent en bandes. Il en existe deux, l'un pour les 3 à 8 ans et l'autre pour les 9 à 13 ans. Les adultes sont ceux qui ont dépassé 13 ans et ne s'occupent jamais des enfants. Quand le gouvernement leur apporte des aliments, les plus forts s'en emparent et les gardent pour eux sans en donner à quiconque car ce serait du gaspillage. Et ils préfèrent se gaver et vomir plutôt que de partager, même avec leur famille. Le chacun pour soi règne en maître suprême, au point où l'auteur dit même qu'on ne peut pas accuser les Ik de se conduire comme des bêtes, car ce serait insulter le monde animal. Ce type de fonctionnement étonnant et qui est pire que la loi de la jungle révèle la vraie composition du cœur humain à l'état brut. L'apôtre Paul écrit « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. » Les droits de l'homme, les règles morales et civiques qui font partie de notre héritage et dont nous sommes si fiers, n'ont pas pour source un humanisme bienveillant. De nature, l'homme n'est pas un être civilisé du tout, mais il est tordu et méchant. C'est d'ailleurs pour cette raison que quelques millénaires en arrière, Dieu a déjà anéanti la quasi-totalité de cette race perverse. Je continue à lire dans le second chapitre de la deuxième épître de Pierre. Dieu n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Verset 5. Littéralement, le texte dit que Dieu a préservé Noé, la 8e personne. Les 7 autres étaient sa femme, ses 3 fils et leur épouse. Pierre devait être très impressionné par l'histoire du déluge car il en parle à 3 reprises dans ses 2 épîtres. Non seulement Dieu a jugé certains anges déchus, mais il a éliminé toute la population du globe, sauf la famille de Noé. D'après le récit de la Genèse, le monde d'alors a été détruit parce que l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Toutefois, Dieu a sauvé 8 personnes, dont Noé. Le texte dit qu'il obtint la faveur de l'Éternel parce qu'il était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Tout en construisant l'arche, Noé œuvrait également comme prédicateur de la justice, avertissant ses contemporains qu'ils encouraient la rétribution divine et la mort, et il les appelait à se repentir. Plusieurs siècles plus tôt, Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, avait prêché un message similaire. Lui, le 7e patriarche depuis Adam, il a dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Fin de citation. Mais que ce soit Enoch ou Noé, ils ne furent pas écoutés. Le mot pour déluge qu'utilise Pierre a donné cataclysme en français. Le récit de la Genèse parle d'une catastrophe à l'échelle de la planète et qui était d'une telle violence qu'elle a littéralement redessiné toute la topographie de la Terre. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, les preuves géologiques de cette catastrophe sont plus qu'évidentes. Dieu a détruit tout ce qui respirait à la surface de la Terre en recouvrant d'eau le monde entier, y compris les sommets des montagnes qui existaient avant le déluge. On peut penser que ce châtiment fut sévère, mais on n'a aucune idée de la situation qui prévalait juste avant que ce jugement ne survienne. Il semble en effet que les meurtres faisaient partie du quotidien ordinaire de l'humanité et qu'ils avaient été banalisés au point où personne n'y prêtait plus la moindre attention. Pour cette raison, après ce cataclysme, et afin de tenir le mal en bride, Dieu institua la société structurée, hiérarchisée et organisée autour de la répression du crime. Il ordonna à Noé, « Dieu a fait l'homme pour être à son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. » Vous me direz peut-être que cette règle viole l'un des 10 commandements, celui qui dit « tu ne tueras point ». Eh bien non, car en hébreu ce n'est pas le mot pour « tuer » qui est utilisé. Littéralement le texte dit « tu ne commettras pas de meurtre ». En d'autres mots, nul n'a le droit d'ôter la vie de son prochain pour des motifs personnels, mais la société a le droit et le devoir d'imposer la peine capitale à ceux qui enfreignent cette règle divine. Contrairement à cette fausse notion si répandue, ce n'est pas respecter la vie humaine que de laisser vivre un meurtrier. Au contraire, on donne de la valeur à la vie de l'être humain en mettant à mort celui qui a tué pour satisfaire ses passions ou ses vices. Mais aujourd'hui, ce sont les sentiments du moment qui dirigent la justice. Au nom d'un sentimentalisme morbide dépravé, l'opinion publique prend le criminel en pitié et on dit « Oh, le pauvre, il a eu une enfance difficile, il faut l'aider !» et on oublie très vite qu'il a ôté la vie à un être humain. Le pire est qu'après avoir fait un peu de prison, on le relâche et dans la plupart des cas, il poursuit tranquillement sa carrière de hors-la-loi. Avec le temps du verbe et le vocabulaire utilisé, Pierre dit en substance que Dieu fit soudainement survenir le déluge sur un monde d'impies. En d'autres mots, dès que Dieu a fermé la porte de l'arche, sur Noé, sa famille et les animaux, une forte tempête s'est déclenchée sur une humanité qui n'avait pas le moindre égard, ni la plus petite révérence pour Dieu. Le mot que Pierre emploie pour impie est celui que les pères de l'Église primitive utilisaient pour désigner les hérétiques et les athées. En rappelant les eaux du déluge, Pierre souligne que le sort qui a frappé les mécréants de l'époque de Noé est également réservé aux imposteurs religieux qui s'introduiront dans les assemblées chrétiennes. Ils n'échapperont pas au jugement de Dieu. Je continue le texte. Dieu a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre en les réduisant en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Verset 6. Pour sa troisième illustration du châtiment divin, Pierre descend dans les bas-fonds dépravés de deux villes célèbres. À une certaine époque, c'étaient les principales cités de la plaine du Jourdain. Elles se trouvaient dans la vallée de Sidim, à proximité de la mer Salée, comme on l'appelait alors. C'était une région très fertile et donc le lieu idéal pour cultiver la terre et faire de l'élevage. C'est en raison de leur méchanceté fondamentale et pas seulement à cause de leurs pratiques sexuelles infâmes que Dieu a condamné ces villes, ainsi que plusieurs autres, à une destruction complète. Tel qu'il est décrit, leur jugement établit un parallèle avec le déluge qui s'était produit environ 450 ans auparavant. À l'instar de Noé et de sa famille, Lot et ses filles furent les seuls à y échapper. Tous les autres habitants furent détruits, incinérés, un peu comme les gens de Pompéi par le Vésuve en août 79. D'après le récit de la Genèse, l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. Fin de citation. Dieu a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre en les réduisant en cendres. Le mot pour « destruction » a donné « catastrophe » en français et décrit une ruine totale. Le verbe « réduisant en cendres » est en un seul mot. En fait, le jugement de Dieu a été si dévastateur que l'emplacement exact de ces villes est sujet à débat. Cependant, et comme je l'ai dit, il y a de fortes chances que les ruines qui se trouvent au fond de la mer Morte, dans sa partie sud, soient des vestiges de Sodome et de Gomorre. Dans l'épître de Jude, le texte parallèle à celui de Pierre, l'auteur dit que ces villes ont été condamnées à un feu éternel et servent ainsi d'exemple. Dans les Écritures, le châtiment de Sodome et Gomorre sert d'avertissement aux impies plus de 20 fois. Bien que les habitants des villes maudites connaissaient le message de justice et de jugement que Noé a prêché après le déluge, ils l'ont rejeté et ont choisi de vivre en rébellion ouverte contre Dieu en s'adonnant à diverses pratiques coupables. Avant de les détruire, Dieu avait informé son ami Abraham des crimes odieux qui s'y commettaient. Entendant cela, le patriarche a été très ébranlé parce que son neveu Lot habitait Sodome. Alors il a intercédé pour ces villes. Il a imploré le Seigneur de retenir son jugement, s'il s'y trouvait ne serait-ce que 10 justes. Malheureusement, le compte n'y était pas et Dieu les a effacés de la carte. Je continue le texte de Pierre. Dieu a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite scandaleuse des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Versets 7 à 8. Comme il l'a fait dans l'illustration précédente, Pierre rappelle à ses lecteurs que certains ont échappé au châtiment de Dieu. Avant le déluge, Dieu a mis à l'abri Noé ainsi que sa famille. Ici, c'est Lot et ses deux filles qui furent épargnées. L'apôtre fait ici un commentaire intéressant sur un passage familier de l'Ancien Testament. Quand on lit tout ce que le livre de la Genèse raconte au sujet de Lot, on découvre un homme égoïste, attaché au bien de ce monde. Et quand les deux anges sont venus le chercher pour le tirer de Sodome, il a fait preuve d'une faiblesse de caractère pitoyable. Il fallait le faire. En effet, il a offert aux sodomites pervers comme sur un plateau d'argent ses deux filles à la place de ses hôtes angéliques afin d'obéir au code d'honneur de l'époque concernant l'hospitalité. Ensuite, c'est à contre-cœur qu'il a quitté la ville maudite. Pour finir, une fois loin de Sodome, Lot a pris 2 cuites monumentales qui ont permis à ses filles d'avoir des relations sexuelles avec leur père. Et pourtant, malgré ce triste tableau, Pierre déclare pas moins de 3 fois et sans équivoque possible que devant Dieu, Lot était un homme juste, non pas en lui-même évidemment, mais à l'exemple d'Abraham à cause de sa foi en l'Éternel. La triple affirmation de Pierre comme quoi Lot était juste montre bien que les apparences peuvent être trompeuses. Nous connaissons tous des gens qui mènent une vie irréprochable au point où, comme disent certaines gens, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, il ne leur est pas réservé de place dans les cieux. L'inverse est également vrai. Certains qui prétendent être croyants n'arrivent pas à se dépêtrer de leurs fautes et y retombent sans cesse. Cependant, ils seront dans la gloire avec Jésus. Quand on regarde la vie de Lot d'un peu plus près, on voit quand même qu'il a manifesté quelques signes qui étaient des fruits de sa foi en Dieu. Ainsi, quand les êtres angéliques sont venus le voir, il leur a témoigné le plus grand respect. Et bien qu'il ait hésité à s'enfuir, il a fini par obéir et a même averti les fiancés de ses deux filles de la catastrophe qui allait s'abattre sur eux. Cependant, ces jeunes hommes ne l'ont pas pris au sérieux le moins du monde, puisqu'il est écrit qu'ils prirent ces paroles pour une plaisanterie. Leur attitude semble indiquer que le témoignage de Lot laissait quelque peu à désirer. Cela dit, dans la rangée des comportements positifs, Lot a quitté la ville maudite sans regarder derrière lui par obéissance à Dieu. Sa femme, par contre, s'est retournée car elle ne pouvait pas détacher son cœur de Sodome et ne croyait pas qu'elle serait détruite. Cette désobéissance lui a valu d'être changée en statue de sel. Toujours dans la rangée des points positifs de Lot, Pierre nous informe aussi qu'il était consterné par la conduite scandaleuse des habitants débauchés de ces villes. Bien que matérialiste et moralement faible, Lot ne prenait aucune part aux dépravations des sodomites. Le mot pour consterné veut dire accablé, miné. Il exprime l'idée d'épuiser quelqu'un en le tourmentant et n'est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament. Donc, Lot était véritablement affligé par les péchés qui se pratiquaient constamment sous ses yeux dans la plus grande désinvolture. Il y a tout à parier qu'il devait regretter d'être venu s'installer dans Sodome. À l'époque où il avait fait ce choix désastreux, il n'avait qu'un objectif en vue, s'enrichir. Il avait alors cru obtenir la part du lion aux dépens de son oncle Abraham. Par grandeur d'âme, ce dernier n'en a jamais voulu à son neveu, et s'il a demandé à Dieu de pardonner aux villes maudites, c'était bien pour que Lot soit épargné par le jugement. L'exemple d'Abraham est à imiter. Au lieu de critiquer quelqu'un, il vaut bien mieux prier pour lui. Pierre nous dit que Lot était consterné mais également tourmenté jour après jour dans son cœur intègre. L'apôtre accumule les verbes qui montrent l'intensité du dégoût que cet homme éprouvait à cause des agissements criminels des sodomites. Le mot pour tourmenter signifie littéralement torturer. C'est comme si Lot était quotidiennement au supplice. Le terme pour criminel signifie littéralement sans loi, sans normes. En d'autres mots, chacun en Sodome se laissait aller à ses pulsions du moment qui le conduisaient aux actes les plus vils comme la sodomie ou le meurtre. Pierre sait que ses lecteurs vivent au milieu d'une culture corrompue et qu'ils pourront donc s'identifier à la situation difficile de Lot. Lot n'avait pas la trempe de Noé et n'était pas un prédicateur de la justice. Cependant, tous deux ont refusé les pratiques immorales qui caractérisaient leur époque. En évoquant le récit du jugement de Dieu contre Sodome et Gomorre, Pierre avertit ses lecteurs du terrible sort que Dieu réserve à tous ses ennemis et en particulier aux imposteurs religieux. Et en mentionnant que Lot a eu la vie sauve, l'apôtre rappelle aux justes que le jugement ne les concerne pas. Vu sous cet angle, la délivrance de Lot préfigure l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ qui aura lieu avant ce que les Écritures appellent la tribulation et qui durera 7 ans, temps pendant lequel Dieu va juger ce monde. Aucun de ceux qui espèrent en Jésus ne sera laissé derrière et même les croyants les plus faibles seront délivrés. Quand la cohorte des saints prendra son envol, il ne manquera personne. » Je continue le texte. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer d'une attaque ceux qui lui sont attachés, tandis qu'il garde sous surveillance ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Verset 9. Le mot pour châtier, qui signifie punir, est un autre de ces mots de Pierre qui n'apparaissent qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Dieu sait faire la différence entre les siens et les autres. Aujourd'hui, le blé et l'ivraie poussent ensemble, mais un jour, le divin moissonneur va faire le tri. En attendant, les croyants sont appelés à mettre leur confiance dans la sagesse infinie et dans la puissance souveraine de leur divin protecteur. Quant aux injustes, ils sont semblables à des prisonniers qui languissent derrière les barreaux avant que leur sentence finale soit prononcée. Et à moins qu'ils ne se repentent de leur faute, le poids de leur culpabilité ne fait que croître. Le jour où ils devront s'en acquitter, ils seront traduits devant le tribunal du grand trône blanc, où aura lieu le grand règlement de compte. Après leur condamnation, qui sera sans appel, ils seront transférés dans l'étang de feu, leur dernière demeure pour l'éternité. C'est maintenant qu'il faut choisir. Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » Mais il est passé de la mort à la vie.